Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio.
Dans son histoire, le cinéma a très souvent été vecteur de quelque chose qui va plus loin que les images ou les histoires. Révélateur des troubles et des carences de la société, il agit comme un miroir de nos vies, un pouvoir qui le rend influent et donc l'expose aux amputations pelliculaires, à la censure. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui grâce à Jean-Jacques Meusy, historien du cinéma, ancien directeur de recherche au CNRS. Il va pour nous retracer l'histoire de la censure en France, de sa naissance à nos jours. On va parler de la censure. Alors, je sais que c'est assez compliqué de parler de la censure au sens large. On va essayer de rester un petit peu concis. Tout d'abord, de parler de cette censure et des origines de cette dernière, au cinéma, hein, bien sûr.
Eh bien, d'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de censure. Quand on parle habituellement de la censure, on pense à une censure nationale exercée par un service gouvernemental dont les décisions sont applicables sur l'ensemble du territoire. Mais il y a d'autres formes de censure. Par exemple, les censures locales. Un maire peut très bien interdire sur son territoire la projection d'un film s'il pense que cela peut créer des désordres publics. C'est évidemment une censure très dangereuse. Et cette censure-là, elle existe de tout temps et existe toujours.
On a une petite date qui pourrait, par exemple, sceller le premier cas de censure au cinéma.
Le théâtre était sujet au contrôle des pièces. Hein. Seulement voilà, en 1906, la censure théâtrale, elle a été supprimée de facto parce que le budget qui était alloué à la commission en question a été supprimé. Et elle est morte de cette façon-là. Donc pas de censure théâtrale, évidemment on n'allait pas mettre une censure nationale au cinéma. Mais il y avait, comme je vous le disais, des censures locales. Et je pourrais vous citer quelques exemples. Il y a eu un film en 1907 de Pathé, qui s'appelait « À Biribi ». Biribi, c'était un bagne militaire, particulièrement atroce, et le film le dénonçait, ce bagne. Et ce film, « À Biribi », a été l'objet de l'interdiction de la part de quelques maires en France. Alors, j'ai parlé de la censure nationale, j'ai parlé des censures locales, mais il y a aussi une censure extrêmement importante, qui est l'autocensure. C'est-à-dire que dans des périodes où les sujets sensibles étaient bien identifiés, eh bien les producteurs et les réalisateurs aussi évitaient ces sujets sensibles. C'est l'autocensure. Mmh. Et celle-là, il n'y a pas de baromètre, de thermomètre pour la mesurer. Elle ne laisse pas de traces. C'est simplement un évitement.
Est-ce qu'il y avait différentes façons de gérer la censure à travers le monde, au niveau cinématographique, hein, bien sûr?
Oui, alors là, il faudrait prendre tous les pays un par un. Il y a tout un tas de formes diverses et variées. Hein. Moi, je vous parle de la législation française telle qu'elle a été. Et en fait, la censure nationale en France, pour le cinéma, est intervenue à la faveur, entre guillemets, à la faveur de la guerre de 14-18. Toutes les guerres sont marquées par une restriction des libertés publiques. Et dès août 14, c'est-à-dire le mois même du début de la guerre, de déclaration des hostilités, les films ont dû passer devant une commission de contrôle militaire qui était gérée par la préfecture de police. Et il y avait trois fonctionnaires qui examinaient les scénarios de films. Alors, les sujets tabous de l'époque, c'était tout ce qui avait rapport avec la guerre, l'armée, l'ennemi, et aussi, curieusement, les mœurs. C'est-à-dire que la France combattante devait être moralement irréprochable. Ainsi, la représentation d'un adultère au cinéma était un sujet tout à fait sensible et était menacé d'interdiction. Alors, en 1919, à la sortie de la guerre, il y a eu une loi qui instituait une commission de contrôle des films auprès du ministère de l'Éducation et des Beaux-Arts. Il n'y avait pas de ministère de la Culture à l'époque. Et il y a eu un autre changement important en 1928 avec le décret Herriot qui instituait la parité dans les commissions de contrôle des films entre les professionnels et les personnes désignées par le gouvernement. La grosse censure des années 30, c'était contre les films des années 25 et 30, c'était contre les films soviétiques. Un film comme Le cuirassé Potemkin, qui fait partie de la petite poignée de chefs-d'œuvre incontestés dans le monde, était interdite. Et presque tous les films d'Eisenstein ont été interdits. Il a fallu attendre 1953 pour qu'on puisse voir librement Le cuirassé Potemkin.
Comment ça se passe sous l'occupation ?
Oui, alors d'abord, comme vous le savez, la France a été coupée en deux, un peu en diagonale, la zone nord étant occupée et la zone sud étant dite libre. Alors, il y avait, pendant tout ce temps-là, deux censures. Il y avait la censure allemande, la censure française. La censure française, j'ajoute, n'étant pas la moins redoutable. En 42, les Allemands ont envahi la zone sud et il n'y a plus eu qu'une seule censure, la censure allemande. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de films interdits. Il y a eu une autocensure qui était la censure principale de cette période-là. Il est évident qu'un sujet comme l'occupation était totalement tabou. C'était pas la peine d'évoquer l'occupation dans un film, c'était le couperet immédiat. Et ce qui a été très rapidement interdit par les Allemands, c'est bien sûr les films anglo-saxons, films de l'ennemi. Et puis, les films des années 37 à 39, où il apparaissait au générique un nom de juifs, il fallait refaire le générique et faire disparaître de tels noms.
Comment ça se passe à la Libération, justement ? Est-ce que cette censure cinématographique change, évolue ?
À la Libération, il y a eu d'autres tabous. Et l'un d'entre eux consistait à gommer une réalité pourtant bien réelle qui était la collaboration. Il fallait faire apparaître les Français comme étant tous des héros de la Résistance. Et un film comme La bataille du rail, par exemple, de René Clément, montre des héros, des cheminots héros contre les occupants. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'on puisse oser montrer une France qui n'était pas toute résistante, mais où il y avait aussi des collaborateurs. Et il y a un film qui est très instructif, c'est Le chagrin et la pitié, de Marcel Ophuls, qui montrait à travers une ville, Clermont-Ferrand, le comportement des Français, qui n'étaient pas tous du côté de la Résistance. Et ce film, il est sorti en 1969. Et le général de Gaulle lui-même aurait répondu à Marcel Ophuls, je cite, « La France n'a pas besoin de vérité, la France a besoin d'espoir ». L'un des tabous extrêmement importants de la période de la Libération et d'un peu après, ce sont les guerres coloniales. Il était à peu près impossible de parler des guerres coloniales au cinéma, et si on le faisait, c'était l'interdiction. Il n'y en a pas beaucoup qui s'y sont risqués.
Une fois que, on va dire, cette période d'après-guerre est passée, on arrive vers une nouvelle date importante pour la censure, c'est 1968 et mai 68 qui change beaucoup de choses au niveau de la censure cinématographique en France.
Alors, évidemment, les événements de 68 ont mis à jour l'évolution des mœurs, l'évolution des consciences, l'évolution de la morale. La censure telle qu'elle était, au niveau des mœurs en tout cas, au niveau de la morale, ne pouvait plus rester telle qu'elle. En 1974, Giscard d'Estaing a décrété purement et simplement la suppression de la censure, des interdictions. Apparemment, il n'a pas calculé les conséquences que ça allait avoir. C'est-à-dire que dans l'année qui a suivi, il y a eu un véritable tsunami pornographique. Et alors, c'était un danger pour le cinéma français, parce que ces films, d'une part, ils étaient devenus extrêmement nombreux, ils avaient du succès, et de cette façon, ils menaçaient le cinéma français tout entier. Alors, en décembre 1975, le gouvernement prit diverses mesures pour endiguer cette production pornographique. Alors, petit à petit, la commission de contrôle des films au CNC est devenue en fait une commission de classification, c'est-à-dire qu'elle classait les films interdits au moins de 12 ans, 16 ans, 18 ans, et classés X. Mais il n'empêche que même si la censure totale est tombée en désuétude, quasiment disparu, il est toujours possible d'interdire.
Ça va être un peu la conclusion de notre entretien, c'est cette censure de nos jours, vous le dites, à part si bien sûr il y a des énormités qui arrivent, bien sûr ça va être censuré, ça va être interdit, mais à part ça, les réalisateurs sont et producteurs sont globalement libres de faire ce qu'ils veulent.
Oui, libres, enfin libres dans un contexte économique. L'industrie cinématographique est une industrie par définition capitaliste. Il ne faut pas croire à la liberté totale, ça n'existe pas. Mais en fait, cette liberté presque totale, c'est la technique qui l'a amenée. Avec Internet, eh bien, il est possible de passer des films ou des photographies, des images de toutes sortes. Et là, on peut dire que c'est une liberté pour le meilleur et pour le pire.
C'était le mot de la fin. Jean-Jacques Meusy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien du cinéma, que vous êtes un ancien directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Je vous remercie.
À bientôt. Voilà, nous quittons Jean-Jacques Meusy. Encore merci à lui de nous avoir reçus. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. Même heure, même antenne. À la prochaine.
C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.